Bon, je pense qu'on peut commencer. Alors, bonjour à tous. Merci de revenir aussi nombreux, malgré la reprise tardive du cours, qui va donc avoir lieu chaque semaine jusqu'au tout, à cette heure et à cet endroit, jusqu'au mardi 16 avril, donc en principe toutes les semaines. Il se pourrait que je sois amené à éventuellement déplacer un ou deux cours, mais enfin, pour le moment, ça n'est pas prévu, et de toute façon, vous en serez informé sur le site. Alors, avant de commencer, donc, oui, j'ai quelques annonces à faire. Cette année, contrairement à l'année dernière, le cours ne sera pas complété par un séminaire, parce que ce séminaire sera remplacé par une journée d'études qui, en fait, va... C'est le terme admis, mais elle aura lieu sur deux jours, les 4 et 5 juin, ici même au collège. Elle sera évidemment ouverte à tous et elle sera concentrée sur l'étude des questions d'irrigation en Asie centrale. J'ai en effet trouvé qu'il serait commode de doubler mon cours de l'année dernière et de cette année, et sans doute aussi de l'année prochaine, qui porte sur les questions urbaines, avec quelque chose portant sur les questions rurales. Et la base même de toute vie rurale intensive en Asie centrale, c'est l'irrigation. Donc, cette table ronde aura lieu ici en hommage à Pierre Gentel, qui était décédé en 2006, qui était... 2010, excusez-moi, qui était donc l'un des pionniers, peut-on dire, de cette étude de l'irrigation ancienne en Asie centrale et avec lequel nous avions beaucoup travaillé, d'abord en Afghanistan et ensuite à Samarcande. Alors j'annonce par ailleurs que j'invite dans le cadre de ma chaire deux conférenciers étrangers. Donc l'un d'eux ça a été évidemment annoncé, c'est monsieur Pavel Lourier, conservateur au musée de l'Ermitage, et qui va nous faire quatre conférences. La première aura lieu mardi prochain, ensuite ce sera chaque mardi pendant donc jusqu'au 24 mars à 17h, salle 5. Enfin, tout ça se trouve sur le site. Pavel Lourier est, à l'heure actuelle, dans la jeune génération, le meilleur spécialiste de tout ce qui concerne à la fois l'archéologie et la philologie de la Sogdiane, région dont j'ai été amené à parler l'année dernière et dont je serai amené à parler ultérieurement en liaison avec nos fouilles de Samarcande. Deux de ces conférences auront plutôt une orientation archéologique et iconographique, et deux autres plutôt une orientation philologique. Mais enfin, comme je m'efforce moi-même de le faire, il observe souvent un équilibre entre les divers ordres de données et essaie de les faire interagir. Donc, vraiment, je vous convie à venir nombreux. Bon, ces conférences auront lieu en anglais. Et puis, par ailleurs, début juin, à une date encore, ouais, je crois, enfin, probablement le 8 et 10 juin, j'invite pour deux conférences mon collègue américain Jason Bedoun de l'Université du Nord Arizona, qui parlera sur des sujets, un sujet pas du tout archéologique, mais loin d'être sans rapport avec l'Asie centrale, puisqu'il s'agira du manichéisme, principalement dans ses rapports avec Saint-Augustin, qui est évidemment l'un des témoins majeurs du manichéisme. Voilà, tout ça sera annoncé en temps utile. Alors, j'ai donc cette année annoncé un cours sur le Khorezm, qui probablement sera amené à se poursuivre aussi l'année prochaine. Alors, qu'est-ce que le Khorezm? Il y a plusieurs. Le Khorezm, c'est le nom actuel. Le nom médiéval, c'était Khwarezm. Le nom qu'on trouve chez les auteurs classiques, notamment les historiens d'Alexandre, c'est la Chorasmie. C'est cette région-là, Chorasmia, vous voyez sur le plan, qui est au sud de la mer d'Aral. Alors, cette région a eu les honneurs d'une actualité assez tragique depuis une dizaine d'années, parce qu'elle souffre, comme vous savez, d'un désastre écologique, lequel, semble-t-il, est en voie d'être maîtrisé, puisque j'ai pu, lors de mes dernières visites, voir à nouveau l'eau couler dans la Moudaria, ce qui n'était pas arrivé depuis fort longtemps. Pourquoi consacrer une place aussi importante, une année entière de cours et probablement davantage, à une région qui peut paraître, qui est aujourd'hui fort déshéritée et qui, sur la carte, peut paraître aussi excentrée par rapport non seulement au monde iranien, mais même à l'Asie centrale. Je dirais que les fouilles de Nizâ et d'Ayhanoum que j'ai présentées l'année dernière avaient ouvert la connaissance de la civilisation urbaine hellénistique de l'Asie centrale. Les fouilles du Khorezm ont ouvert l'archéologie de l'Asie centrale tout court, et cela dès les années d'avant-guerre. C'était vraiment les premières grandes explorations archéologiques à l'échelle d'une immense région il n'y avait en fait à l'époque comme précédent que les grandes explorations du Turkestan chinois par les expéditions du début du XXe siècle et au premier rang desquelles se trouvait celle d'Orelstein. Alors, par rapport à des régions dont j'ai été amené à parler l'an dernier, la Parthienne, où se trouve Nizâ, ici, la Bactriane, la Sogdiane, on passe dans un autre monde, on change d'univers. Le Khorezm, peut-on dire, enfin, dans l'Antiquité, c'est vraiment l'extrémité septentrionale de l'Ocuméné, le monde connu. Un fait très significatif de toutes les anciennes provinces de l'Empire achéménide, à part les sites d'au-delà de la mer Noire, c'est la seule province où Alexandre n'est pas allé et n'a même pas envoyé de troupes. Il a eu des contacts, je vais en parler dans un instant, mais c'était trop excentré, il n'a même pas envoyé un détachement. Dans la littérature archéologique et la littérature tout court, le Khorezm qu'on voit ici, alors ce qui est en pointillé, évidemment, c'est le sable, vous voyez qu'il y en a beaucoup, ce qui est en ligne droite, c'est la mer Caspienne, la mer d'Aral, voilà le Khorezm. Alors, on dit souvent le Khorezm est une île. C'est pas véritablement une île. C'est un ensemble. C'est la combinaison, l'articulation des deux deltas de la Moudaria ici et du Sirdaria. Et par ailleurs, évidemment, dans cette notion du Khorezm en tant qu'île, on connote une idée d'insularité, de marginalité, d'isolement. C'est effectivement le point de vue qu'avait défendu Tolstov, le grand explorateur de la région, dont je vais être amené à parler tout à l'heure. C'est un point de vue tout de même que les recherches les plus récentes, notamment celles de la mission archéologique australienne, dont je vais aussi parler, qui est aujourd'hui à l'œuvre très activement, c'est un point de vue que les nouvelles recherches tendent à nuancer. Le Khorezm n'a jamais été dans un état d'isolement complet et au niveau de ses élites, il avait une certaine interaction avec les régions plus méridionales. Le Khorezm contraste avec ce que nous avons vu l'an dernier par la nature du paysage archéologique. Le paysage archéologique des régions méridionales où s'est déroulée l'enquête de l'année dernière est formé de villes fortifiées, d'anciennes capitales, parfois immenses, des villes en général désertées à des époques diverses, donc libres pour l'archéologue d'aujourd'hui. Et par ailleurs, un semis de sites petits et moyens qui ont un taux de survie extrêmement aléatoire selon les régions. Et ce tableau donc, d'une coexistence d'énormes villes fortifiées et de sites petits et moyens qui nous ont été laissés par les hasards de la mise en culture moderne vaut depuis l'âge du bronze jusqu'au Moyen-Âge islamique. Au Khorezm, au contraire, il n'y a aucune très grande ville. Voilà, un tableau qui regroupe schématiquement un certain nombre de villes, enfin, les villes supposées des périodes de la moyenne et basse antiquité. On peut contester le synchronisme de certaines d'entre elles, mais enfin, on voit que la plus grande de toutes, la première capitale du pays, Akçakhankala, fondée probablement au IIe siècle avant notre ère, cette capitale fait 56 hectares. Alors, comparé aux 130 hectares d'Aïkhanoum, aux 200 hectares de Samarcande et aux 400 hectares que Bactre avait à l'époque grecque, c'est évidemment peu. Par ailleurs, les plus grands sites, en fait, je dirais tous ceux que vous voyez sur cette carte, et en particulier Akçakhankala, sont en fait des enceintes en grande partie vides. Alors vous me direz, c'est vrai aussi dans certains sites méridionaux. On sait très bien que Samarcande, à l'intérieur de ses murailles, n'a jamais été très densément occupée. Malgré tout, cette impression est plus forte pour le Khorezm. Alors, autre spécificité, c'est qu'en dehors des villes, c'était jusqu'aux années 50-60, dans beaucoup d'endroits, un paysage intact. Un paysage conservé parfois, qui nous est parvenu depuis le 4e, le 3e siècle avant notre ère, dans certains endroits. Alors voilà une photo prise d'avion de trois sites, les trois sites dits Ayaskala, qui sont aujourd'hui largement ouverts au tourisme. C'est même l'une des principales curiosités touristiques de la région, avec l'ancienne capitale moderne, disons, de Kiva. Ces trois sites, à eux seuls, résument un millénaire de l'histoire de la région. Ayaskala 1, qui est un site qu'on date maintenant du 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, bâti en fait un site défensif et un site, je dirais, d'observation, bâti en limite du plateau face au monde de la steppe du Nord, d'où pouvait venir la menace. Ayaskala II, qui est un site probablement du 1er siècle après Jésus-Christ, une grande enceinte, à nouveau en partie vide, avec simplement un secteur occupé. Et Ayaskala III, du haut Moyen-Âge, fin d'Antiquité au Moyen-Âge, occupé du 4e au 7e siècle, avec un donjon en position supérieure et un palais en contrebas. L'existence de ces trois sites s'est partiellement chevauchée, mais malgré tout, on voit très bien l'expression, il suffit de... On a là sous les yeux un millénaire d'histoire de fortification avec les impératifs successifs, la défense face aux fronts nomades, une grande enceinte visiblement ayant une importance politique régionale et ce que on a pu qualifier de féodalisation à la fin de l'Antiquité avec des petits châteaux juchés sur des pitons. Voilà, donc vous voyez l'état de conservation. Ayaskala 1, bâti sans doute au 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, le rempart tel qu'il a dû être refait dans les premiers siècles de notre ère, mais ce n'est pas plus récent. Voilà, Ayaskala 3, le donjon féodal dont j'ai parlé tout à l'heure, on voit encore le décor dit gaufré avec des pilastres saillants, les meurtrières. Ça, c'est un paysage, je vous dis, du 4e, 7e siècle. Dans ce paysage, on se promène encore. Pour la période précédant la conquête islamique, 6e, 7e siècle, vous voyez, on a dans certains secteurs, Berkoutkala, dont je serai amené à parler plus tard, des manoirs fortifiés conservés jusqu'au 2e, parfois jusqu'au 3e étage. Les archéologues qui travaillaient là ont fait à la fois de l'archéologie et de l'ethnologie, puisqu'en fait, on rentre chez les gens. Voilà. Et ça n'existe, peut-on dire, nulle part en Asie centrale, sauf dans les sables du Turkestan chinois. Et puis, pour compléter le tableau, voilà un autre site, Kargakala, de l'époque pré-islamique. Alors, vous voyez ces vénules-là. Ce sont les anciens canaux. Et on peut les cartographier jusque dans leurs plus petits embranchements. Et dans certains cas, on a même le parcellaire, les limites des champs. C'est un paysage militaire et rural qui est littéralement fossilisé, qu'il l'était, parce qu'évidemment, de tout cela, ça n'existe plus aujourd'hui, c'est remis en culture. Ce qui existe encore et qu'on visite et qu'à l'occasion les archéologues peuvent encore venir étudier, c'est ce qui est encore sur des hauteurs, comme ces sites. Alors, pour compléter ce tableau à grands traits des spécificités du Khorezm, je mentionnerai un caractère extrêmement contrasté de l'évidence des évidences archéologiques. Du point de vue, l'architecture surprend souvent par son caractère extrêmement sophistiqué, savant, la qualité de la construction, la régularité géométrique. Vraiment, on a affaire, quand on voit certains de ces plans, on a affaire à des véritables épures sorties du cabinet d'un architecte. Mais à côté de ça, on a un matériel mobilier et décoratif qui est très souvent déconcertant parce que de niveau médiocre. Et là on sent quand même une certaine marginalisation par rapport aux brillantes cultures du Sud. Mais encore une fois, dans ce matériel médiocre, sur certains sites qui étaient visiblement au sommet de l'échelle politique, il y a des fulgurances tout à fait spectaculaire. Alors, je n'en mentionnerai que trois. Dans un site, disons, de grande forteresse, grande résidence, Kalalegir, probablement 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ, eh bien voilà, on a retrouvé un moulage en plâtre qui copie les griffons en pierre de Persépolis. Et ça, on l'a retrouvé nulle part ailleurs. Donc, le commanditaire de ce manoir avait visiblement l'intention, elle n'a peut-être pas été réalisée, mais il avait importé des modèles en plâtre inspirés des griffons de Persépolis pour se faire un décor de type Persépolis dans son manoir du Khorezm. Ici, donc dans le site d'Akshahankala, la plus ancienne capitale que j'ai mentionnée et dont je vais beaucoup parler par la suite, des peintures murales extrêmement spectaculaires, avec ici un personnage parmi 40 d'une galerie qu'on appelle la Galerie des Rois. Ils ont tous des colliers en or à 7 spires. Certains ont des coiffes avec des oiseaux ou des lions. Vous voyez ces visages stylisés, mais tout de même extrêmement vivants. Ils ont tous les oreilles rouges. Hein. Tout pose question ici. Mais voilà, le Khorezm, c'est ça. De temps en temps, on tombe sur quelque chose qui est complètement unique. Dernier exemple, ça vient d'un site, disons, des premiers siècles de notre ère, Gaurkala, qui est un site militaire contrôlant le long de la Moudaria, un verrou possible d'invasion. Eh bien voilà, on a un portrait en terre crue, grandeur nature. De qui s'agit-il ? Probablement le maître du lieu. La qualité est absolument stupéfiante. On pourrait avoir ça dans la sculpture grecque, en tout cas dans l'art du Gandhara. Alors, pour continuer avec les spécificités du Khorezm et de la manière dont il a été étudié, je dois mentionner la méthodologie tout à fait remarquable qui a présidé à cette étude. C'est une archéologie qui, dès le début, c'est-à-dire dès les années 30, s'est trouvée au service d'une véritable pensée géographique, avec une vision globale du réseau d'irrigation, facilité évidemment par son extraordinaire état de conservation qu'il avait à l'époque, puisque au moment où les archéologues arrivent au Khorezm dans les années 30, le Khorezm est encore un désert, à part ce qui entoure l'oasis de Khiva, qui a été le dernier centre politique avant la Révolution. Au départ, cette archéologie est l'œuvre d'un homme, Sergueï Pavlovitch Tolstov, dont je vais me permettre de parler très en détail, parce que, je le dis comme je le pense, c'est un géant. Lui et ses collaborateurs, principalement l'archéologue ouzbek Goulyamov et le géographe russe Andrianov, ont compris d'emblée que les canaux étaient l'articulation majeure du paysage humanisé et que l'étude des sites devait être groupée par ensembles spatiaux et chronologiques en fonction des branches de canaux sur lesquelles ils se trouvaient. Un seul avant eux avait compris cela, parce qu'il avait sur le terrain les moyens de le comprendre, c'était le grand Orelstein au Turkestan chinois au début du XXe siècle, qui lui aussi a compris que la clé de la chronologie, la clé de la compréhension de la mise en valeur ancienne de l'espace, la clé de la compréhension même des projets politiques anciens, c'était l'étude des branches de canaux. Voilà, cette carte montre l'état de l'étude des canaux au début, vers 1960. Ça a encore progressé après, et il faut bien se rendre compte qu'on a une vision ici assez simplifiée, hein, vu l'échelle. Par exemple, cette zone-là, qui était vraiment la zone politiquement centrale du Khorezm des premiers siècles de notre ère, est montrée de manière plus détaillée ici, mais il faut bien savoir que quand on va dans les publications vraiment locales, de site par site, chacun de ces sites mentionnés ici est étudié en liaison avec les diverticules des canaux à un niveau de détail, encore une fois, là on arrive à l'échelle du champ. Alors voilà, c'est la première tentative qui ait jamais été faite en Asie centrale, donc dans un ouvrage de 1962 de Tolstov, pour indiquer les canaux, les différencier par des couleurs en fonction de leur chronologie. Les sites sont indiqués par la couleur des canaux qui les desservaient. C'est une vision, c'est une puissante vision géographique. Cette démarche scientifique n'est pas sans présenter des points communs avec celle de l'école géographique et historique française de la même époque, des années 40, la grande époque de l'école des Annales. Quand on est un peu familier des écrits de l'école des Annales, les écrits de Tolstov ont un air assez familier. Et pourtant, pour des raisons politiques et idéologiques, ces écoles scientifiques n'ont pas communiqué entre elles. Alors, avant d'en venir à l'histoire, je dirais même l'épopée de l'exploration du Khorezm, je vais donner encore quelques vues introductives que je serai amené parfois à développer par la suite. Voilà, la carte politique du Khorezm à l'heure actuelle. Vous voyez, ce n'est pas simple. Ici, on est au Kazakhstan, ici, on est en Ouzbékistan, ici, on est au Turkménistan. Le Khorezm fait à peu près 500 sur 300 kilomètres, le quart de la France. Politiquement, il est aujourd'hui divisé. La rive droite, qui était en fait le cœur historique du pays, disons, du début de notre ère à la conquête arabe, appartient à l'Ouzbékistan, mais sous forme d'une république fédérée, qui est donc le Karakalpakistan, la république de Karakalpaki, avec pour capitale Noukous, dont on a entendu parler il y a quelque temps parce que la catastrophe sanitaire et écologique était particulièrement dramatique. Je vous rassure, ça va un peu mieux. Bon, j'y étais l'année dernière. Cette Karakalpaki garde au sein de la République d'Ouzbékistan un sentiment identitaire fort. Il est très mal vu quand on est à Noukous de faire un toast pour la prospérité de l'Ouzbékistan. Il faut faire le toast pour la prospérité du Karakalpakistan. Parce que l'Ouzbékistan, auquel pourtant ils appartiennent, c'est écologiquement l'ennemi. C'est l'Ouzbékistan qui a développé au-delà de tout contrôle la monoculture du coton, laquelle a failli complètement ruiner cette région par les conséquences qu'elle entraînait sur le tarissement du grand fleuve et la salinité. Alors, à côté de ça, toujours au sein de l'Ouzbékistan, mais rive gauche, se trouve un district, lui, directement rattaché à l'Ouzbékistan, à Tachkent. C'est ce qu'on appelle le Khorezm Ouzbek. En fait, c'est centré autour des capitales médiévales, Urgench et Kiva, qui a été la dernière grande capitale indépendante jusqu'en 1920 et qui est un site aujourd'hui, une ville-musée splendide, ouverte au tourisme. Par ailleurs, une partie de le reste de la rive gauche est rattaché au Turkménistan, donc, dont la capitale est bien au sud, à Ashrabad. Et pour compliquer le tout, le delta du Sirdaria est rattaché au Kazakhstan. Alors, je vous dis tout de suite, à l'époque soviétique, ces frontières de république n'avaient aucune incidence sur les conditions de l'exploration archéologique. Aujourd'hui, depuis les indépendances, elles en ont. Elles en ont. Il n'est en fait aujourd'hui pas possible à une même mission archéologique d'opérer sur deux républiques à la fois. Du point de vue des limites naturelles maintenant, et non plus les limites politiques, vous constatez donc que ces deltas imbriqués, la Moudaria et le Sirdaria, délimitent un pays qui est en fait cerné de tous côtés. Ici, c'est écrit en russe, l'Oustiourt, un grand plateau quasi désert, bordé, on ne le voit pas très bien sur cette carte, on ne le voit pas sur cette carte, par une puissante falaise. C'est le point méridional d'hivernage des grandes tribus de la steppe, et ceci depuis fort longtemps, et des tribus qui parfois viennent de très loin. C'est l'une des portes d'entrée des nomades de la steppe, il y en a eu d'autres, mais c'est l'une des portes d'entrée des nomades de la steppe dans l'Asie centrale méridionale et l'Iran. Pour ne prendre que l'exemple le plus fameux, les Parthes, qui à partir du IIIe siècle s'implantent au sud et qui, au siècle suivant, vont chasser les Grecs d'Iran, les Parthes sont passés par là. Au départ, ils nomadisaient. C'était tout simplement leur pâture estivale, et leur pâture hivernale. Leur base estivale était plus au nord. Alors, par ailleurs, on a ici donc la mer d'Aral. Enfin, la voici telle qu'elle était il y a 20 ans, c'est plus du tout telle qu'elle est aujourd'hui, comme vous le savez. Elle est réduite, en fait, à trois grands lacs même si du côté du Kazakhstan, on observe actuellement une certaine remise en eau. Et puis, la barrière en fait la plus terrible, c'est la barrière des déserts. Ici, le Kizilkoum, les sables rouges. Ici, le Karakoum, les sables noirs. Tout un programme. Et ces déserts, donc le désert du Kizilkoum, fait la limite avec la Sogdiane, vous voyez ici Boukhara, et le désert du Karakoum fait la limite avec ce qui est plus au sud, c'est-à-dire la Parthienne, la région de Nisa, dont j'ai parlé l'année dernière. En fait, les seuls débouchés permettant d'éviter la traversée de ces grands déserts, ces débouchés sont fluviaux. C'est d'une part la vallée de la Moudaria. Alors, entre, disons, Urgench et Boukhara, il y avait, c'est bien Boukhara, oui, on comptait au Moyen-Âge 9 étapes caravanières, ce qui a toujours dû être le cas. Et puis, du côté de l'ouest, il y a un autre débouché, mais beaucoup plus aléatoire. C'est qu'en fait, il a à certains moments existé un effluent de la Moudaria qui allait jusqu'à la Caspienne. C'est ce qu'on appelle, alors ici donc, ce sont des canaux qui ont été assez longtemps en fonction, puis un énorme lac, en fait une petite mer intérieure qu'on appelait le Sarikamish, et ici un bras fluvial qu'on appelle l'Ouzboy. Alors, il y a toute une littérature ancienne et mythologique et scientifique moderne. Il y a toute une mythologie sur l'Ouzboy, parce que évidemment on a rêvé à l'existence de cette voie fluviale qui aurait permis de mettre en communication la vallée de la Moudaria remontant jusqu'à l'Afghanistan et par là même débouchés possibles des produits de l'Inde, et la Caspienne. Et à partir de la Caspienne, non, les royaumes caucasiens et la mer Noire et le monde antique, et le monde méditerranéen. Alors, je vais y revenir. En fait, cette route fluviale, l'idée qu'il existe une route fluviale entre la Moudaria, entre l'Inde et la Caspienne, donc évidemment par là, se trouve dans certains géographes antiques. Elle se trouve mentionnée par Strabon, elle se trouve mentionnée par Pline. Nous allons voir tout à l'heure que la réalité n'a pas été aussi brillante. Mais donc du coup, par la lecture des géographes antiques, les savants modernes ont cru à cette voie fluviale et ont cru qu'elle pourrait être ranimée. Et ça a eu des conséquences extrêmement fortes sur la politique russe sous Pierre le Grand. C'est que Pierre le Grand y a cru. Et en 1717, il a envoyé soumettre l'émirat de Kiva, qui était le dernier reste d'un Khorezme indépendant, une expédition militaire, l'expédition du général Bekovitch. Ça s'est terminé en désastre. Ils ont péri dans les sables et par ailleurs assaillis par les troupes nomades du Khan de Kiva. Et la raison de l'expédition Bekovitch, c'était retrouver, éventuellement remettre en eau, s'il fallait le faire, l'ancienne voie fluviale du commerce entre l'Inde et la Caspienne. Et puis, par la suite, sous Staline, réfléchi à la possibilité de creuser un grand canal, ce qu'on appelait le grand canal turkmène, le canal Nord, qui finalement ne sera jamais réalisé. Et nous allons voir tout à l'heure que les projets autour de ce grand canal sont l'une des explications des moyens exceptionnels qu'ont eu les archéologues pour travailler au Khorezme. Alors, quelques mots maintenant sur le Khorezme dans les sources historiques antiques. Je vous dis tout de suite, ça ne remplit pas des tomes. Donc, voilà ce qu'on a pour l'époque ancienne iranienne, pré-achéménide et achéménide. Le Khorezm est mentionné une fois dans l'Avesta. C'est dans l'hymne à Mitra. Mitra se lève le matin, donc dans le char du soleil, au-dessus de l'Hindou Kush, dans la région de Bamiyan, on peut situer assez précisément, et de là, il voit les fleuves qui prennent naissance dans l'Hindou Kush et qui coulent au loin. Et tout au bout, parmi les pays arrosés par ces fleuves, il mentionne Khwarizm. Le mot se retrouve dans les inscriptions vieux perses, je vais en parler dans un instant, sous la transcription Uvarazm, qui est en fait une transcription artificielle. Ce n'est pas une vraie forme linguistique. C'est une retranscription artificielle à partir de la vraie forme qui est Khwarizm. Qu'est-ce que ça veut dire, Khwarizm ? Il y a eu plusieurs hypothèses à un moment, une hypothèse en vogue qui, évidemment, bien excitante pour l'imagination, ça aurait été le pays Khwarazma, le pays qui a sa propre loi. Bien. Alors, de là, on disait, quelle loi ? Eh bien, évidemment, la loi de Zoroastre, etc., etc. Bon, plus prosaïquement, on pense maintenant que c'est Khwarazm, c'est-à-dire terre brûlée. La racine Khwar signifiant brûler sans se consumer. Voilà. Et ça fonctionne avec des nuances de rouge et de noir. Ça colle très bien, puisque je viens de vous parler des sables rouges et des sables noirs qui entouraient le Khwarezm. Alors, là, il y a un parallèle qui, évidemment, vient à l'esprit. C'est le nom de la Sogdiane, Surda en avestique. Retranscrit artificiellement en vieux perse sous Gouda, qui très probablement veut tout simplement dire le pays brûlé. Alors, vous me direz pourquoi des noms pareils, aussi décourageants, alors que aussi bien le Khwarezm que la Sogdiane sont des oasis, des régions de mise en culture ancienne, avec des canaux, etc. Alors, bon, on n'a pas évidemment d'explication toute faite. J'aurais tendance à penser que c'est une toponymie très ancienne qui s'applique non pas au paysage progressivement mis en culture, mais à ce aux dépens de quoi ce paysage a été conquis. Voilà. Une explication alternative possible aussi, c'est qu'il s'agirait d'une toponymie externe, c'est-à-dire c'est le nom que les étrangers donnaient à ces pays. Ce qui pourrait, dans le cas du Khwarezm, ce serait logique. Les gens venaient du sud, les autres populations iraniennes venaient du sud, notamment les armées achéménides, et en fait, elles auraient donné au pays le nom des terres très inhospitalières qu'on avait dû traverser pour y arriver. Pareil pour la Sogdiane, si on lit la description que Khindkurs donne de la Sogdiane à l'époque des campagnes d'Alexandre, il parle des rivières, mais il ne parle pas des canaux, il ne parle pas de tout ça. Il dit c'est un pays tout rouge et tout noir, très inhospitalier. Bon, évidemment, c'est l'impression première qui a compté. Voilà, on peut supposer ça. Alors, je viens donc de dire que le nom du Khwarezm se retrouve dans les inscriptions achéménides. En fait, il apparaît chaque fois qu'il y a des listes de peuples. Ça commence avec la première inscription achéménide, la grande inscription de victoire de Darius Ier à Bissoutoun, qui probablement vers 520, juste après l'écrasement des rébellions du début de son règne. Mais, détail intéressant, le Khwarezm est mentionné, Uvarazm est mentionné parmi les terres soumises, mais pas dans la liste des peuples révoltés. Bien. Et on continue à trouver la mention du Khwarezm jusque dans la dernière inscription achéménide, c'est-à-dire sur le tombeau d'Artaxerxès II, mort en 358. Les gens du Khwarezm, donc j'emploierai la forme qu'utilisaient les auteurs classiques, c'est-à-dire les Khorasmiens, habitants de la Khorasmie, sont représentés sur les reliefs achéménides. En voici un, voilà. En voici un ici. D'une manière pas extrêmement caractéristique, on ne les voit pas apporter un produit de leur pays en tribu. On les voit représentés d'une manière très similaire aux Sogdiens, à certains des Sakas, c'est-à-dire des Scythes, c'est-à-dire bon, avant tout des cavaliers qui portent l'akinakès, l'épée courte, voilà, c'est un peu, et qui ont le bonnet du cavalier avec les deux pans latéraux sur les joues, qui en fait ont une fonction pratique, c'est qu'on peut les nouer devant la bouche quand on est à cheval pour éviter de respirer la poussière. Voilà les maigres données que nous donnent les documents achéménides sur le Khorezm. Alors, il y a tout de même... Oui, alors, dans les inscriptions achéménides, le Khorezm est mentionné dans le même groupe que, on voit logiquement, dans le même groupe que les Sogdiens, les Bactriens, l'appartiennent ici. Bon, on voit très bien qu'on a le sentiment qu'ils appartiennent à ce même ensemble. Par déduction, on pense, ça n'a sans doute jamais été une satrapie, même si le Khorezm est mentionné dans la liste des provinces, enfin, ce qui ne recouvre pas exactement celle des satrapies chez Hérodote. Beaucoup plus probablement, le Khorezm était administré, enfin, pour autant que l'administration achéménide y ait été très active, depuis la Bactriane, de même d'ailleurs que l'était la Sogdiane. C'est-à-dire qu'il y avait en fait une satrapie de Bactriane qui avait juridiction sur la Sogdiane et sur le Khorezm. Alors, on a quand même un document achéménide qui donne des informations un peu plus précises. C'est la tablette de fondation du palais de Darius à Suse. Où il nous est, sur cette tablette, on mentionne les matériaux qui ont servi à construire et orner le palais et leur provenance. Et il est écrit « La turquoise qui a été travaillée ici a été apportée du Khorezm ». Alors, on s'est beaucoup creusé la tête avec cette mention parce que, jusqu'à une époque relativement récente, les grandes mines historiques de turquoise qu'on connaissait dans l'Est iranien étaient plus au sud, c'était les mines de Nishapur. Alors, on y a vu un argument pour supposer, ça c'est un peu un serpent de mer dans les études sur le Khorezm, que ce qu'on appelle aujourd'hui le Khorezm, c'est en fait le résidu septentrional de ce qui, à l'époque pré-achéménide, aurait été un royaume beaucoup plus grand, englobant aussi Merv, Herat, enfin la Margiane, Lari, voilà. On a donc parlé de la notion de grande Khorasmi. Maintenant, cette idée est en fait abandonnée. C'est finalement l'archéologie, en ce qui concerne au moins le problème de la turquoise, qui a trouvé le dernier mot, puisque pour finir, les archéologues ont trouvé dans le Kizil Koum, à côté du Khorezm, des mines de turquoise qui avaient été exploitées du 7e au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire qui étaient en exploitation au moment où Darius construisait son palais, dont l'exploitation avait ensuite repris au Moyen-Âge. Donc il n'y a plus de problème avec la tablette de fondation du palais de Darius. La turquoise, utilisée à Suse, venait du Khorezm. Alors, une dernière indication sur le rôle du Khorezm dans l'Empire achéménide, c'est qu'il a fourni des contingents dans les armées. Alors, les mentions sont quand même assez limitées par rapport à... On nous parle des cavaliers bactriens, on nous parle des archécites, etc. Bon, les Khorasmiens sont mentionnés en fait une seule fois dans le contexte des guerres médiques, par Hérodote, 766. C'est lorsque Xerxès, excusez-moi, qui passe en revue ses troupes en Thrace à Doriscos. Et dans la liste des troupes est mentionné le contingent du Khorezm. Mais ensuite, quand on a le récit de des guerres médiques elles-mêmes, on ne les trouve mentionnées dans aucune bataille. On ne les voit pas à Marathon, on ne les voit pas à Salamine, on ne les voit pas à Platée. Alors, Pierre Briand a fait la supposition qu'en fait, la parade militaire de Doriscos n'avait pas un rapport direct avec la nature des troupes qui ont été véritablement engagées dans la guerre. C'est tout simplement, divers peuples envoient un contingent symbolique pour que le grand roi Achéménide puisse contempler la totalité des peuples qu'il a dans son empire, mais ça ne veut pas dire pour autant que ces gens-là vont être utilisés comme unité combattante. Alors, une autre explication possible, c'est qu'ils n'étaient pas nombreux et que, dans les récits des batailles, ils se sont retrouvés confondus avec d'autres peuples est-iraniens. En tout cas, bon, alors, on ne les retrouve pas du tout, par exemple, dans les récits des batailles contre Alexandre, Issos, Gaugamel. On n'a pas de Corasmiens qui sont mentionnés. Ça ne veut pas dire... on en a tiré argument pour dire qu'à ce moment... le Khorezm était devenu totalement indépendant. Ça, c'était la théorie de Tolstov. Le Khorezm s'était libéré par ses seules forces. On ne peut pas tirer des conclusions pareilles. Alors, il y a un endroit où, tout à fait inattendu où on voit des troupes du Khorezm. C'est en Haute-Égypte, à Éléphantine, près d'Assouan, dans l'île d'Éléphantine. Comme vous savez, cette île a fourni un lot d'archives très intéressant de l'époque de la domination perse, un lot de papyri qui mentionne en fait des garnisons étrangères. Alors on est à ce moment-là, donc à l'époque de la domination achéménide. Alors on connaît surtout les papyri d'Éléphantine par l'existence de la colonie juive qui est mentionnée et qui a son propre temple. C'est passionnant pour les biblistes. On a des gens qui sont mentionnés et on dit c'est un Khorasmien. Donc, les Achéménides ont envoyé des Khorasmiens en Haute-Égypte. Ça, c'est pas surprenant du point de vue de la politique achéménide. Il y avait cette volonté de déplacer au maximum les peuples d'une extrémité de l'Empire à l'autre, de façon à créer quelque chose d'homogène. Plus tard, enfin, je suis amené à en parler, on a au moins un indice archéologique qu'il y avait des Khorasmiens dans les armées que les Parthes opposaient aux Romains, dans ce qu'on appelle les cataphractaires, enfin ces personnages complètement recouverts de lames de métal. Et bien, il se trouve que dans la tombe d'un seigneur Khorasmien de la périphérie, en fait, ici, à Tchirikrabat, sur le Sir Daria, on a trouvé une armure de cataphractaire. Et donc, on peut faire l'hypothèse que les Khorasmiens continuaient éventuellement, même quand ils étaient... ont continué beaucoup plus tard à fournir des mercenaires aux armées iraniennes. Arrivons maintenant au moment de la conquête d'Alexandre. Comme je vous l'ai dit, Alexandre n'a pas cherché à aller au Khorezm et n'y a pas envoyé de troupes. Mais il a eu un contact au sommet, au niveau politique, et c'est là qu'on voit pour la première fois que le Khorezm a une structure politique propre. Le Khorezm a un roi, ou plusieurs rois. Ça se passe en 328. On ne sait pas très bien si ça se passe. On a dit longtemps que ça se passait à Bactre et Claude Rapin vient de proposer qu'en fait ça se soit passé à Samarcande, ce qui serait plus logique. En tout cas, Alexandre vient de mener une campagne frontalière contre les Sakas, enfin les Scythes de l'Est, et par ailleurs, il a dû affronter, il a vaincu la rébellion des nobles bactriens à la tête de laquelle se trouve Spitamène, lequel s'est réfugié, ou a tenté de se réfugier, c'est pas très clair, chez les Khorasmiens. En 328, finalement, Spitamène est livré à Alexandre. Et à ce moment-là, Alexandre reçoit une ambassade, Enfin, selon Quintcurs, selon Arrien, il reçoit en ambassade le roi du Chorèsme. Selon Quintcurs, le roi du Chorèsme, lui, vient en personne avec 1500 cavaliers. Ce roi du Chorèsme, on nous donne son nom, Pharasmanès. Et on dit que c'est le roi, Basileus. Bon, Quintcurs donne un autre nom, mais c'est par confusion. Le vrai nom doit être Pharasmanès. Ah, on a le nom du roi du Chorèsme en 328. Problème avec Pharasmanès, c'est qu'il y a 4 ou 5 étymologies possibles. Ça pourrait contenir des noms de dieux zoroastriens, mais on n'en est pas bien sûr. Aux dernières nouvelles, ce serait une forme dialectale du mot chorasmien, ce qui, évidemment, ne nous apprend plus grand-chose. Bon. En tout cas, on nous dit, là, les sources divergent, Quintcurs, c'est assez précis, il dit oui, les Chorasmiens sont voisins de tribucites qu'on appelle les Massagètes et les Dahs. Alors, les Dahs, on voit que c'est plutôt ceux qui seraient sur le plateau d'Oustiourt et d'où plus tard sont sortis les Parthes. Les Massagètes étaient tout au nord du monde iranien, c'est contre eux que Cyrus est mort. Donc c'est assez. C'est cohérent. Quintcurs, il est très très proche de ses sources. Mais alors, Arrien, auteur enfin, pourtant en général considéré comme plus fiable, lui, il dit carrément que les Chorasmiens sont voisins de la Colchide et des Amazones. Alors, les Amazones, c'est au nord de la mer Noire, et la Colchide, c'est la Géorgie, c'est le pays des Argonautes. Qu'est-ce que ça vient faire ici ? En fait, Arrien, qui est un homme de grande culture et parfois un peu trop de grande culture, réélabore ses données en fonction de sa culture littéraire. Que tirer de cet épisode ? Alors, c'est tout de même assez intéressant. Le roi Pharasmanès propose en personne, ou fait proposer par son ambassadeur, à Alexandre, une alliance militaire et une opération conjointe contre le pont Euxin, c'est-à-dire la mer Noire, pour laquelle il se propose de servir de guide. Ce n'est pas la porte à côté. On va revoir sur la carte. Voilà, il est ici, il va voir Alexandre ici, et il propose une campagne ici. Alors, il y a plusieurs façons de comprendre l'épisode. Pour certains, Pharasmanès roule Alexandre dans la farine. Il s'aperçoit, ou il sait, que les Grecs n'ont pas une perception géographique claire des régions septentrionales et qu'en particularité, en particulier, ils confondent le Syrdaria et le Don. Tous les deux portent chez eux le nom de Tanaïs. C'est-à-dire qu'en fait, il leur manque un quart du camembert. Et ils pensent véritablement que les gens qui sont ici sont en fait ici. Et Pharasmanès, en fait, calmerait les volontés annexionnistes d'Alexandre en lui proposant cette expédition et repart, sachant très bien qu'il n'entendra plus jamais parler d'Alexandre. Ça, c'est une version possible. Il y a une autre explication qui a été proposée, qui, à mon avis, est peut-être plus satisfaisante. C'est qu'en fait, quand Arrien écrit le pont Euxin, c'est-à-dire la mer Noire, en réalité, il ne sait pas très bien où il est, et en réalité, il réinterprète ou comprend mal ce qui, dans les sources, en fait, désigne la mer au bord de laquelle habitent les Chorasmiens, qui n'est pas la mer Noire, qui est la mer d'Aral. Et à ce moment-là, on aurait une explication assez logique. Pharasmanès, en réalité, proposerait à Alexandre, demanderait à Alexandre, en échange de sa soumission, une assistance militaire pour imposer son pouvoir dans son propre pays. Il est possible, effectivement, qu'à cette époque, on n'a pas véritablement d'indication archéologique qu'il ait existé un pouvoir complètement centralisé au Chorèsme. Donc, voilà, on hésite entre les deux explications. Et puis, le rideau tombe. À partir de là, la Chorasmie est perdue de vue. Strabon les mentionne encore, il sait à peu près où ils sont, il dit qu'ils sont à côté des Apasiaques. Alors, les Apasiaques, ça veut dire les sas, les sacas, les sites aquatiques. Donc, voilà, c'est assez cohérent, ce seraient les gens du Sirdaria, faisant partie du groupe plus large des Massagètes. Mais Strabon lui-même, qui est un auteur scrupuleux, dit « Comme on n'a pas fait la guerre à ces gens-là, on ne sait rien sur eux. » Bon, voilà, c'est... Alors après, le Chorèsme réapparaît comme un nom dans des listes, chez Ptolémée, chez Pline. Mais alors c'est vraiment un nom qui se promène, enfin, sans accrochage spatial précis. La notion même de mer d'Aral comme mer fermée est inconnue totalement de la géographie antique. Elle le restera de la géographie médiévale très tard. Si vous voyez des planisphères du XVIe siècle, voire du XVIIe siècle, vous n'avez pas la mer d'Aral. Vous avez la Moudaria et le Sirdaria qui se jettent dans la Caspienne. Et pourtant, au XIIIe siècle, un voyageur a su que la mer d'Aral n'était pas la Caspienne et a transmis l'information, c'est Guillaume de Rubruck, le missionnaire franciscain parti chez les Mongols, qui dit de la manière la plus précise « Je suis passé par là et je peux vraiment affirmer que la mer d'Urgench n'est pas la même chose que la Caspienne et qu'entre deux, il y a de la terre. » Et il a même transmis son information à Francis Bacon, qui était un des grands géographes de l'époque, et puis ça s'est perdu. Il faudra attendre le XVIIe siècle pour s'éveiller à la notion de mer d'Aral. Ceci dit, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, y a quand même, on voit flotter chez Strabon, Pline l'Ancien et Ptolémée la notion de cette voie fluviale directe entre l'Oxus et la Caspienne. Voilà ce que dit Strabon. Pour Aristobule, il déclare que l'Oxus est le plus grand de tous les fleuves qu'il a vus en Asie, ceux de l'Inde excepté. L'Oxus, c'est la Moudaria. Il le dit aussi facilement navigable, ce qu'il tient comme Ératosthène de Patrocle. Alors, qui sont ces gens? Ératosthène, un géographe, Patrocle, un général au service, non pas d'Alexandre, mais de Séleucos Ier, et dont on sait qu'il a exploré la côte de la Caspienne. Il assure qu'on l'utilise pour acheminer jusqu'à la mer d'Hyrcanie, c'est-à-dire la Caspienne, beaucoup de marchandises indiennes, qui traverse ensuite la mer jusqu'en Albanie. Ce n'est pas notre Albanie qu'on connaît, c'est l'Azerbaïdjan. Et sont transportés dans le pont Euxin, la mer Noire, par le Syros et les étapes qui lui succèdent. Ça c'est le début de ce rêve de la voie fluviale Inde-Caspienne dont j'ai parlé tout à l'heure. Et vous voyez, Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, en 1788, qui s'excite. Les cargaisons de soie descendaient l'Oxus, traversant la mer Caspienne, remontaient le Cyrus et le courant du Fars, les portaient dans le pont Euxin et la Méditerranée. Encore en 1788, voilà ce qu'on écrit. La réalité, c'est qu'il y a bien, il y avait bien encore au XVIIe siècle un bras asséché. On pouvait éventuellement couler de l'eau localement en cas de grosse pluie. Les officiers au service de Bekovitch, le général malheureux de Pierre le Grand, l'ont remonté sur 80 km. Donc en fait, ils ont dû faire. Le télescopage des temps est tout de même une chose extraordinaire. Les officiers de Bekovitch en 1717 font la même chose que Patrocle, le général de Séleucos, 2000 ans avant. Ils sont remontés par là et ils ont dit « oui, il y a quelque chose ». Bon. La réalité archéologique, on la connaît maintenant. Ça a été très soigneusement étudié à la fois par les géographes et les archéologues. Ce qu'on peut dire, c'est que il y avait effectivement ce bras fluvial, mais au néolithique, où il coulait abondamment. Puis, il est à peu près à sec. Et il s'est remis à couler, mais pas d'une façon, semble-t-il, très abondante, du 5e au 9e siècle. Et puis, il a coulé une troisième fois à la fin du Moyen-Âge, du XIVe au XVIe siècle, peut-être à la suite de la destruction des canaux par les troupes de Gengis Khan et de Tamerlan. Mais bon, ça coulait, mais ça coulait comment ? Ça n'a certainement jamais été une vraie voie fluviale, parce qu'il y a des cascades, il y a beaucoup de méandres, les sites, il n'y a en tout cas pas de possibilité pour une irrigation latérale. Comme l'a dit le dernier géographe qui a étudié la question, René Létol, c'était beaucoup plus commode de prendre la caravane et de longer le ravin que de se mettre au fond du ravin pour servir de cible de tir aux maraudeurs. Bon. En fait, ici, il y a des villes, il y a des sites, parce que cette zone fait véritablement partie du réseau irrigué du Khorezm. À partir de là, il n'y a plus que des nécropoles nomades. Il y a un site un petit peu important qui est un fort, Iqdkala, qui est probablement, mais on voit très bien, ce n'est pas un site urbain, c'est même pas sur un canal, c'est le désert des Tartares, construit en pierre, et c'est tout simplement un poste avancé de l'Empire Parthe et de l'Empire Sassanide en direction du front des steppes. Donc, voilà, on arrive maintenant très bien à recaler cette histoire de la voie fluviale. Bien, alors, j'en reste là pour aujourd'hui, et donc, la prochaine fois, nous allons suivre à grands traits les destinées historiques du Khorezm jusqu'au Moyen-Âge, et ensuite parler de son exploration archéologique. Après quoi, j'en viendrai à la présentation des périodes, des périodes successives et des sites qu'on peut leur associer. Je vous remercie.